sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment, 6 heures ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Nous sommes le lundi 23 mai 2016 et c'est une journée spéciale qui se prépare sur France Culture, une journée en collaboration et en partenariat avec le magazine La Croix. On parlera de l'engagement politique, de comment réinventer la politique, la réenchanter, pourquoi aujourd'hui tout le monde se détourne des discours classiques des partis politiques qui existent depuis quelques années. Est-ce que c'est la fin de la Ve République ? Est-ce qu'il faut aller ailleurs pour trouver les bonnes raisons d'un engagement ? Tout cela sera débattu à partir de 6h20. Moi, je serai par exemple avec Gilles Perrault. Oui, Gilles Perrault qui sort un livre aux éditions du Seuil où il parle de son grand-père. Il dresse le portrait de son grand-père qui était vraiment un hussard de la République, un homme vraiment très engagé et qui a su transmettre cet engagement, l'importance du discours politique à ses enfants et à ses petits-enfants, puisque Gilles Perrault a vécu quelques années avec ce grand-père magnifique. Mais aujourd'hui, Gilles Perrault se pose la question, maintenant qu'il est grand-père, à son tour, il a du mal à intéresser ses petits-enfants à la politique, au combat qu'il a mené, à l'importance de l'idéologie. Donc il sera avec nous aux alentours de 6h20 pour nous en parler. Et puis cette semaine, nous, dans Un autre jour est possible, on va se poser une autre question qui n'est pas si éloignée que cette problématique que nous allons développer aujourd'hui sur France Culture, celle de la classe ouvrière française. Est-ce qu'elle existe toujours ? Marion Fontaine, qui est maître de conférences en histoire contemporaine et spécialiste du monde du travail, va nous raconter l'histoire de la classe ouvrière française. Est-ce que c'est une histoire en cours ou est-ce que c'est une histoire du passé ? C'est ce que nous verrons avec elle dans un instant et c'est elle, notre tête chercheuse de la semaine. Merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, émission préparée avec Pascaline Bonnet et Anaïs Isbert, réalisée par Thomas Duterre avec aujourd'hui à la technique Delphine Bonnet.
Le monde ouvrier français, une histoire en cours avec Marion Fontaine.
Peut-on encore parler d'une classe ouvrière en France ? C'est notre série cette semaine avec l'historienne Marion Fontaine. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du monde ouvrier. Vous avez publié plusieurs ouvrages à cet effet. Et cette semaine, on va voir où en est justement ce monde ouvrier en France. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire la distinction entre la classe ouvrière et le monde ouvrier en France ?
Oui, alors les deux notions, elles ont deux sens qui ne sont pas tout à fait équivalents. Et si on remonte aux grands ancêtres, aux grands théoriciens de la pensée du monde ouvrier, et on peut penser bien sûr à Karl Marx lui-même faisait la différence. C'est-à-dire que on peut distinguer en gros le monde ouvrier en tant que réalité sociale, en tant que réalité sociologique. En ce sens-là, ça regroupe le groupe social qui est né avec les débuts de l'industrialisation au XIXe siècle et dont la caractéristique est qu'il travaille dans les usines. Donc ça, c'est une réalité sociologique. Et Marx distinguait d'autre part la notion de classe ouvrière. La classe ouvrière, c'est le groupe ouvrier en tant qu'il a conscience de son unité, donc de faire partie d'un ensemble qui est distinct des autres, et notamment distinct du patronat, de la bourgeoisie, et en tant aussi, ça c'est toute la pensée socialiste qui met en avant cela, en tant qu'il a un rôle moteur à jouer dans l'histoire. Donc les deux notions ne sont pas les mêmes, et je pense qu'aujourd'hui, évidemment, la question, elle est très largement posée. Personne ne peut dire qu'il n'y a plus de monde ouvrier en France, quand ça représente encore un peu moins d'un quart de la population active, on ne peut pas dire que les ouvriers ont disparu. En revanche, ce qui a disparu, ou ce qui est au moins profondément en crise, c'est la notion de classe ouvrière, c'est-à-dire à la fois ce qui fait unité, ce qui porte l'identité du groupe, les institutions, les partis, les représentations, et en même temps le fait que ce groupe a conscience de jouer un rôle pas seulement pour le passé, mais aussi pour le présent et pour l'avenir.
Alors comment s'est constitué ce groupe ? À partir de quel moment on parle de classe ouvrière en France ?
Alors, la France a la particularité de, par rapport à d'autres pays, on peut penser notamment à la Grande-Bretagne, où l'industrialisation démarre dès la fin du XVIIIe siècle, et un processus extrêmement brutal. Je pense qu'on n'a pas idée, enfin il faut peut-être regarder la Chine aujourd'hui pour avoir une petite idée de la brutalité du processus de l'industrialisation. Ce sont des communautés rurales, des modes de vie tout entiers qui sont déstructurés et des masses paysannes qui vont vers les usines et avec des conditions de vie au départ qui sont absolument effroyables. Bon, l'historien britannique E.P. Thompson, dans son livre La formation de la classe ouvrière anglaise, insiste bien sur la très grande, l'extrême difficulté des conditions de vie de ces premières générations ouvrières.
Et pourtant, elles étaient portées par le progrès.
Étaient portées par le progrès, mais on voit bien en Chine aujourd'hui que le progrès, du moins dans un premier temps, n'est pas forcément synonyme d'amélioration des conditions de vie.
Ou du moins d'une promesse d'une meilleure vie.
D'une promesse d'une meilleure vie, c'est pas tellement ça que vivent, ils ont peu parlé, ces ouvriers des premières générations. On peut penser qu'ils n'avaient pas vraiment l'idée de promesse d'une meilleure condition de vie, mais au contraire d'une profonde dislocation de leur mode de vie antérieur, d'une véritable agression, du fait par exemple que pour eux au départ les machines ne sont pas vécues comme des instruments de progrès, mais des instruments d'asservissement, de déqualification, donc dans un processus qui n'est pas sans rapport, peut-être la brutalité en moins, avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est un processus qui au départ, pour les ouvriers, je pense, n'est pas vécu comme synonyme de progrès. On voit la même chose en France, à partir du 19e siècle, c'est beaucoup plus lent en France.
Et pourquoi d'ailleurs ?
Parce que la France, d'abord rentre plus tardivement dans l'industrialisation, c'est aussi d'une certaine manière une volonté politique. C'est-à-dire que la France, et ça se voit bien avec la Troisième République française, se veut d'abord une nation rurale et a du mal à penser le monde ouvrier, n'encourage pas la paysannerie à déserter les champs pour aller dans les usines. La France a eu plus de mal avec ce monde ouvrier. Elle a eu aussi beaucoup plus de mal à le former. La différence, si on prend la comparaison avec l'Angleterre, c'est que en Angleterre, une grande partie du monde ouvrier vient d'Angleterre ou d'Écosse ou d'Irlande. En France, étant donné qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre disponible, très vite, on fait appel à deux catégories dont on a besoin, les femmes et les immigrés. L'une des particularités de la classe ouvrière française ou du monde ouvrier français, particularité qu'elle partage avec des pays américains, c'est d'être très largement une classe ouvrière faite d'immigrés. Et cela, pas seulement depuis les 30 ou 40 dernières années, mais depuis, j'ai envie de dire, quasiment sa constitution. Donc ce monde ouvrier français, on le voit naître dans les années 1820, dans les années 1830, dans les usines textiles de la région lyonnaise, par exemple, les fameux ouvriers de la soie, les canuts, dans les mines de charbon à Anzin, dans le nord de la France, à Saint-Étienne, qui donneront bientôt matière au roman d'Émile Zola. Et comme le monde ouvrier britannique, c'est conditions de vie sont au départ extrêmement difficiles. Toute une série de médecins, d'experts sociaux s'intéressent assez vite à ce qui paraît au départ extrêmement étrange, à ce qui fait très peur aussi, observent ces ouvriers comme on observerait aujourd'hui des animaux. C'est-à-dire déplorent chez eux des modes de vie complètement déstructurés, une espérance de vie qui ne dépasse pas dans un certain nombre de 4-35 ans. Ce monde ouvrier, il est vécu comme quelque chose d'abord d'antinomique à la civilisation, de barbare. Après l'une des premières révoltes des ouvriers de la soie, des canuts lyonnais dans les années 1830, un journaliste conservateur écrit une phrase qui là encore n'est pas sans avoir certaines résonances actuelles, il dit les barbares ne sont plus dans le Caucase, ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. Traduisez, les barbares ne sont plus dans le lointain, en Russie, en Asie, ils sont désormais dans nos banlieues ouvrières. Donc le monde ouvrier, il est d'abord vécu sous l'angle de la barbarie, de l'animalité et de quelque chose d'extrêmement effrayant. Et alors tout le travail, si l'on peut dire, de ce qu'on appelle au XIXe siècle, avec des termes différents, le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste, ça va être un travail, bon, évidemment, matériel, politique, c'est-à-dire de parvenir à organiser, à faire en sorte que les ouvriers s'organisent pour peser. Ce que le monde ouvrier apprend, c'est, enfin, ce qui est une leçon en général en histoire sociale, c'est qu'on ne pèse pas tout seul, on pèse ensemble. Ça va être aussi, on ne le dit pas assez, c'est, je pense, quelque chose de très important, tout un travail, en quelque sorte, de requalification symbolique, c'est-à-dire de dire que non, l'ouvrier, ça n'est pas le barbare, ça n'est pas l'animal, c'est au contraire la classe sociale qui est porteuse d'avenir, c'est la classe sociale universelle, dit joliment Jaurès, c'est-à-dire celle par qui la modernité, le progrès et finalement une société meilleure pourra advenir. Donc c'est tout le travail symbolique du XIXe siècle qu'on voit en France, qu'on voit en Grande-Bretagne, c'est-à-dire une opération aussi, on pourrait dire, de, on va employer un néologisme affreux, de dignification du monde ouvrier, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui ont été longtemps considérés comme des parias ou comme des animaux soient considérés au contraire comme des sujets, et quel sujet, du processus révolutionnaire. Et évidemment, tout ça se consolide, bon, alors tout au long de toutes les pensées socialistes qui fleurissent tout au long du XIXe siècle et se structurent à la fin du XIXe siècle dans le cadre des premiers syndicats ouvriers. La CGT naît en 1895, dans le cadre aussi de ce qu'on appelle, en avant 1914, au choix, les partis socialistes, les partis ouvriers, qui entendent désormais être les représentants de cette nouvelle classe sociale.
Avant de parler carrément des partis des travailleurs.
Partis des travailleurs, ce qui, ils se définissent d'ailleurs même de manière différente. Pour eux, parti socialiste, parti ouvrier, parti des travailleurs, c'est désigner la même réalité, en tous les cas, les partis du progrès. Et les partis qui sont censés, dans le cadre de la lutte des classes telle que l'a définie de manière canonique Marx, qui sont censés porter, non seulement, ça je le répète, c'est important, les intérêts d'une classe sociale, mais beaucoup plus largement, le progrès. En général, des paysans qui sont chassés par la difficulté des conditions de vie dans le monde rural vers les usines. Est-ce qu'ils choisissent ce mode de vie, un petit peu comme aujourd'hui on choisirait un métier ? C'est extrêmement compliqué. Enfin, si on prend l'exemple de l'Angleterre, une fois encore, en France, c'est un peu moins brutal, mais en Angleterre, il est bien certain qu'ils ne choisissent pas. C'est-à-dire que c'est plutôt le processus de concentration des terres agricoles qui oblige à une diminution de la main-d'œuvre, qui pousse les ouvriers à venir. Bon, il y a aussi cette idée, alors plus tard dans le XIXe siècle, que effectivement, enfin, il faut bien se rappeler aussi que la condition de vie des paysans au XIXe siècle n'est pas ce qu'on pourrait appeler quelque chose d'extrêmement satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est aussi l'idée peut-être d'une amélioration des conditions de vie, alors qui effectivement entraîne des populations, alors dans des mouvements extrêmement différents. Ça peut être, si on prend un cas comme celui que je connais bien, comme celui des mines du Nord, les mineurs des mines du Nord, ce sont des paysans des alentours, mais aussi, par exemple, des paysans belges qui ne vivent pas très bien en Belgique, qui viennent travailler là. Alors, qui, une fois encore, je ne suis pas sûre qu'ils choisissent de devenir mineurs ou de devenir ouvriers, c'est aussi tout simplement pour eux le moyen d'échapper à la misère. Bon, ensuite, dans un deuxième temps, il y a fixation. de ces familles ouvrières et difficulté, là pour le coup, au moins pour le 19e siècle, à échapper à ce sort-là. Mais on voit bien que si on parle des migrants hors frontières nationales, ce sont aussi évidemment toujours les populations les plus pauvres qui vont vers les usines. Je le répète, les Belges, les Italiens, les Polonais, les coloniaux, toutes ces populations qui espèrent un avenir meilleur, quitte à déchanter, je pense, de manière considérable en arrivant dans les usines du 19e siècle. Alors on l'a tous un peu appris à l'école, mais je pense qu'une fois encore, on mesure mal ce qu'est être ouvrier au milieu du 19e siècle. C'est-à-dire, on parle des journées de 12-14 heures, on parle de salaires extrêmement faibles, on parle, c'est le magnifique poème d'Hugo sur les caves de Lille, on parle d'enfants qui travaillent. Non pas que les enfants ne travaillaient pas au champ, mais ce sont des travaux extrêmement durs, extrêmement répétitifs. On parle d'une maîtrise qui, à l'époque, exerce un pouvoir sans aucune espèce de discussion. Et surtout, des vies à la merci du moindre incident.
Alors,
de la vie.
On va voir demain, toujours avec vous, Marion Fontaine, comment le mouvement va se structurer et comment la classe ouvrière va naître en France. À demain.
À demain.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et mon invité aujourd'hui est Gilles Perrault. Bonjour Gilles Perrault.
Bonjour.
Est-ce vraiment la peine de rappeler qui vous êtes? Auteur entre autres de L'Orchestre Rouge, Le Pullover Rouge, mais aussi Le Dossier 51 pour parler que de vos livres adaptés au cinéma. Vous étiez aussi journaliste d'investigation avant que le terme n'existe. On se souvient de votre enquête qui a fait grand bruit dans les années 90, au début des années 90, notre ami Le Roy. Et aujourd'hui, sur France Culture, c'est une journée spéciale en collaboration avec La Croix pour parler de l'engagement politique, de la parole politique. Comment la faire entendre? Comment faut-il la réhabiliter ou l'enchanter? Et j'ai décidé de vous inviter dans le cadre de cette journée, Gilles Perrault, parce que vous parlez dans votre dernier livre intitulé « Grand-père » de votre grand-père, qui lui était un homme engagé.
Oui, absolument, on peut le dire, oui.
Et comment ?
Il ne se posait pas de questions sur l'engagement, pour lui c'était naturel. C'était naturel.
Et pourquoi ?
Il appartenait à cette génération, il était né en 1862, grandi dans le culte des Lumières de la Révolution française. Et donc, pour quelqu'un qui naît en 1862, le passé, le 19e siècle est le siècle affreux. La Restauration, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, et puis ensuite un certain Napoléon III qui va régner jusqu'au désastre de 1870, on est très loin des idéaux révolutionnaires. Et sa génération a le sentiment que c'est maintenant ou jamais, après la défaite de 1870. La République, c'est maintenant ou jamais.
Et Alexandre Merlot, parce qu'il faut l'appeler par son prénom et par son nom, il est vraiment très actif. Est-ce qu'il a été, vous venez de nous dire, Gilles Perrault, que le contexte historique a beaucoup compté dans la vie de votre grand-père et dans ses actes, mais ses actes aussi bien à l'école, dans la rue, et que au sein de la famille. Est-ce qu'il a été aussi inspiré par la littérature? Parce que effectivement, comment ne pas penser à Jean Valjean quand on lit l'histoire de votre grand-père telle que vous l'avez écrit, Gilles Perrault?
Oui, bien sûr. Non, il était écouté dans la famille. Victor Hugo était une espèce de dieu avec une minuscule, et il le reste d'une certaine façon. Ma mère, donc la fille d'Alexandre Merlot, ma mère considérait que Les Misérables était le sommet indépassable de la littérature.
Et pourquoi votre mère était la fille préférée de votre grand-père, Gilles Perrault?
Eh bien, elle lui résistait. Voilà. C'était un homme...
L'esprit de résistance.
Voilà, et de liberté. Et donc, c'était un homme assez autoritaire, tout de même. Mais il admirait chez elle cette faculté de résister. À... Voilà. Donc, il l'appelait la fille de la liberté. Et c'est vrai qu'elle était sa préférée. Elle était sa préférée.
Et du coup, il était féministe avant l'heure, votre grand-père.
Ah, mais bien sûr, il a élevé ses filles. Il a eu 8 enfants, donc famille nombreuse. Et il a élevé ses filles dans l'idée qui était déjà révolutionnaire. Dans l'idée qu'elles ne seraient libres que si elles obtenaient, vis-à-vis de leur compagnon ou de leur mari, d'une indépendance financière. Donc, il faut faire des études, il faut travailler. Voilà, donc il était absolument féministe. Il ne faisait pas de différence, d'ailleurs, entre les hommes et les femmes. Donc, oui, pour lui, c'était un combat... C'était l'homme de la liberté, il voulait la...
Et de la République.
De la République et de la laïcité, voilà.
Voilà, c'était ses combats.
Faut pas oublier que Napoléon avait institué le Concordat, qui a duré jusqu'en 1905, avec l'adoption de la loi de séparation des Églises et de l'État. Mais donc, l'Église est omniprésente. L'Église est ultra-réactionnaire. L'Église se bat pour empêcher la République de prendre... La direction des écoles, la création de l'école publique gratuite, obligatoire et gratuite, mais ça a été un scandale pour l'Église. L'Église est très puissante sur tous les plans, la presse, l'opinion, l'argent, il y a beaucoup d'argent. Donc ce sont des combats très durs.
C'est un très beau portrait que vous dressez de votre grand-père Alexandre Merleau, de l'importance de l'école d'ailleurs, fin du 19e, début du 20e siècle. Mais alors Gilles Perrault, aujourd'hui la parole politique est complètement discréditée. Cette fois-ci je m'adresse à vous Gilles Perrault, que faut-il faire pour la faire entendre, pour la réhabiliter, pour l'enchanter?
Écoutez, je dirais... Je ne vois pas l'opportunité. Et là, vous me direz, mais où vous militez? Où militez-vous, vous? Moi, je ne milite pas pour l'instant. Je ne trouve pas de lieu de militance qui me convienne, qui m'enthousiasme, qui me porte à faire des sacrifices. Voilà. En même temps, c'est merveilleux de partir ensemble à une bataille et de la perdre ou de la gagner, mais de la livrer, en tout cas, de la livrer. Bon. Et là, je ne vois pas. Vous me posez une colle, là. Je pensais pouvoir répondre aux situations, enfin, que vous évoquez à propos de mon grand-père. Mais là, je ne sais pas. D'une certaine façon, je dirais, c'était plus facile en 1940. Il y avait les collabos, il y avait Vichy d'un côté, il y avait la résistance de l'autre. On pouvait ne pas choisir, mais si on voulait choisir, il y avait du choix. Là, le choix n'est pas évident. Regardez, vous dites les nuits debout, d'accord, qu'est-ce que vous voulez? Pessimisme de l'intelligence, disait Gramsci, le même Gramsci, optimisme de la volonté. Je voudrais avoir, j'ai l'optimisme de la volonté, mais enfin... Le mouvement des indignés, qu'est-ce que ça a donné en Espagne? Qu'est-ce que ça a donné? Podemos, vous voyez. Bon, c'est l'enlisement. Qu'est-ce que ça a donné en Grèce? Ils sont passés sous les fourches caudines quand même, ces malheureux Grecs qu'on a traités de façon indigne. Ça aurait indigné mon grand-père. Bon, voilà. Alors donc, il n'y a pas la solution. Je ne suis pas sûr que la solution passe... par les nuits debout. Peut-être, on va voir. Mais là, on est dans une phase difficile. C'est bien de faire une journée sur l'engagement. Mais où sont les bannières « engagez-vous » voilà. Tout est un peu exténué. Regardez la présidentielle qu'on nous prépare. Qui va s'enthousiasmer pour ça?
Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cet état de fait? Parce que là, je me demande quel genre de discussion vous avez avec vos petits-enfants, hein, parce que vous nous avez raconté tous ces échanges que vous avez eus avec votre grand-père. C'est vraiment passionnant. Ça a été votre éducation civique.
C'est vrai.
Et alors, avec vos petits-enfants, vous parlez de quoi? Est-ce que vous parlez de politique, d'engagement?
Mais non, parce que ça ne les intéresse pas, malheureux. ça ne les intéresse pas.
Ou on ne les intéresse pas. Ou on a décrédibilisé la parole politique, peut-être. Il faut inventer autre chose.
Oui, non, mais écoutez, là, on parle quand même de cette loi sur le code du travail. Ma petite fille, qui a 17 ans, m'a dit, mais c'est quoi cette loi ? Ben, je dis, c'est un projet de réforme du code du travail. Et c'est quoi le code du travail ? Oh, bon, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? On n'est pas à la veille du Front populaire, hein. C'est, voilà. Bon, il y a une démission. Regardez les intellectuels, ils filent tous à droite. C'est épouvantable, quand même, de voir des gens...
Et vous-même, vous en êtes où, Gilles Perrault ?
Ah ben moi, je reste résolument à gauche, ça c'est sûr.
Ouais.
Ah oui.
Mais
oui,
comment
oui.
Vous l'expliquez à votre petite fille, par exemple ?
Mais je ne l'explique pas, parce qu'elle comprend même pas ce que ça veut dire.
C'est-à-dire que vous avez renoncé à la transmission des valeurs telles que... Non, attendez, votre grand-père, il était...
Non,
il
mais
était
moi, je tendais l'oreille à ce que me disait. Je trouvais ça passionnant. Moi, ça m'a toujours concerné, tout ça. Quand il me racontait ces histoires de... Quand il me racontait l'affaire Dreyfus, quelle épopée, l'affaire Dreyfus. Bon, hein. Et bon, il s'est battu en duel pour Dreyfus, oui. Mais bon, il a surtout beaucoup milité pour Dreyfus. Il y a eu quand même un mouvement. C'est affreux, l'affaire Dreyfus.
Mais ça parle à votre petite fille quand vous racontez.
Mais pas du tout.
Est-ce que vous posez des questions, Gilles Perrault, sur qu'est-ce qu'il faut transmettre, comment il faut le transmettre ?
J'ai pas les réponses à votre question.
Mais est-ce que c'est votre...
Si j'avais les réponses, je serais candidat à la présidence de la République, un de plus.
Non, mais
j'ai pas les réponses.
Mais vous y pensez ?
Oui, mais bien sûr, je suis un vieux soldat, maintenant, un très vieux soldat, qui attend de recevoir son ordre de mobilisation, mais ça vient pas. Et puis on cherche pas... On ne cherche pas à nous mobiliser. Et bien, il va se passer des choses. Ah, mais ça, je ne suis pas du tout inquiet sur le fond. Ça viendra. Ça peut venir même très vite, vous savez. Ça peut venir très vite.
Comment ça va venir ? Comment faire entendre la parole politique ou les nouvelles formes d'engagement ? C'est la question qui va nous concerner toute cette journée sur France Culture, en partenariat avec le journal La Croix. Un témoignage, celui de Gilles Perrault, parlant de son grand-père, du combat de son grand-père. C'est édité au Seuil et c'est un livre que je vous recommande vivement. Merci beaucoup d'être passé ce matin, Gilles Perrault.
Merci à vous.
C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée. Thank you.